C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 92, 18 novembre 2024. Au sommaire aujourd'hui, jour du souvenir trans, l'état des lieux du Canada pour les personnes trans, un tableau navrant. À Transcontinent Queer, notre regard sur les actualités et enjeux queer à l'extérieur du Québec, on revient sur les différentes élections provinciales et leur impact sur les communautés queer. Imagination, le grand festival du film queer, nous présente sa 38e édition et un marché de Noël où le bien-être, l'érotisme et autres curiosités sont à l'honneur, celui du Festival Jouissif.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis Martin Chabot. Entrevue.
Le jour du souvenir trans, ça a lieu le 20 novembre. Pourquoi? Pour commémorer les personnes trans qui ont été assassinées et pour ça, sensibiliser la population sur les violences que subissent ces personnes. Ce jour est à la mémoire de Rita Hester. Elle a été tuée le 28 novembre 1998 à Alston, dans le Massachusetts. Au départ, c'était un événement sur le web, Remembering Our Dead, créé par, en 1999 par Gwendolyn Anne Smith, militante trans, et puis ça a évolué et c'est devenu le Transgender Day of Remembrance, la journée du souvenir trans. Et pour en parler, une personne très impliquée dans les communautés trans, il s'agit de Céleste Trianon. Céleste Trianon est une juriste et activiste transféminine. Bienvenue à l'émission, Céleste.
Merci.
On est très contente de te recevoir à nouveau, surtout que c'est un sujet important. Céleste, on utilise toujours, je pense, avec toi les pronoms féminins, c'est ça?
Oui.
Tout à fait. Alors, dans le cadre de ton travail de suivi sur la propagation de la haine anti-trans au Canada, ben, tu tiens à jour une carte des risques anti-trans, une visualisation assez, assez étonnante hein, de l'ensemble des lois, des politiques et actions gouvernementales anti-trans dans les territoires et provinces canadiennes. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager dans un travail comme ça?
Bien, pour moi, la première chose, c'était d'avoir constaté qu'il y avait des personnes provenant surtout des États-Unis, mais aussi d'ailleurs, qui se demandaient où devrais-je déménager au Canada si je veux déménager? Et maintenant, c'est devenu de plus en plus contemporain, surtout avec la récente élection de Donald Trump qui a suscité beaucoup de peur au sein des communautés trans qui ont justement été visées avec plus de 300 millions de dollars canadiens. Mm-hmm. En publicité anti-trans.
Oui, oui, on a vu ça, là. Je pense qu'en anglais, ça disait « Kamala is for they, them, nous, Donald Trump is for you hein? ». Kamala s'intéresse aux personnes qui utilisent des pronoms « il mm-hmm. » et « c'est lui » et « elle ». Puis bon, c'était assez peu. Ben, c'était très éloquent, puis assez peu éloquent, en fait. Mm-hmm. Peux-tu nous expliquer comment fonctionne la carte des risques? Comment t'as mis ça?
Disons qu'avant, ma méthodologie était un peu comme plus du gut feeling, mais éventuellement, j'ai un peu raffiné mes méthodes pour que ce soit justement quelque chose qui est basé sur des faits. Donc, au final, comment est-ce que j'utilise quelques barèmes? Donc, premièrement, je n'assume jamais qu'une juridiction est sécuritaire jusqu'à temps qu'on me prouve le contraire. Ouais. Donc, je ne mettrai jamais une juridiction à bas risque, sauf si on a un gouvernement qui avance activement les droits des personnes trans, mais il n'y a pas vraiment de chance élevée que... Il y a des anti-trans qui se font élire. Donc, par exemple, au Manitoba, en ce moment, les choses se passent super bien. Il y a des lois qui ont été introduites pour faciliter, entre autres, les changements de nom pour les personnes trans, pour souligner la journée de la visibilité trans, à ne pas confondre avec la journée du souvenir trans.
Tout à fait.
Tandis que d'autres provinces, telles que l'Alberta, introduisent des projets de loi anti-trans qui vont quasiment enlever les soins de santé médicalement nécessaires à nos jeunes trans, ainsi que de dévoiler forcément la transidentité des jeunes à leurs parents sans leur consentement même.
Donc, je pense que l'Alberta, c'est la pire juridiction jusqu'à maintenant. Là.
Pire, puis ça va environ juste aussi loin que, je dirais, certains États du sud des États-Unis. Ce n'est pas aussi pire que la Floride ou le Texas ou certaines autres juridictions, mais ça demeure quand même un endroit qui n'est relativement pas sécuritaire.
Alors, quelles sortes de lois politiques, là, tu en as nommé quelques-unes, mais c'est quoi que tu regardes pour t'assurer que ça fonctionne, de donner une cote là, aux provinces et territoires?
Je dirais généralement, est-ce que ce serait facile pour une jeune trans ou une adulte trans à vivre dans une province donnée? C'est vraiment ça mon barème. Puis, en vertu, pas comme son. J'utilise pas vraiment comme la pensée populaire, sauf si ça aura raisonnablement comme une influence sur la politique. Moi, je ne regarde que les politiciens, puis leurs débats, puis leurs pensées, puis tout. Et c'est justement pourquoi est-ce que, par exemple, la Colombie-Britannique, qui auparavant était vue un peu en tant que sauveteur, en guillemets, des personnes trans, d'ailleurs, tellement. Il y a des pratiques, là, qui ne sont pas pratiquées ici, telles que même s'introduire avec les pronoms dans les tribunaux. Mm-hmm. C'est quelque chose d'assez spécial, disons-le. Puis ça n'existe malheureusement pas ici au Québec. Mais en même temps, la CB, il y a une extrême droite qui a
pensé proche de gagner. Hein?
Extrêmement proche, par ouais. environ une centaine de votes, au
ouais,
final.
Oui, oui. Parce que c'était le Parti conservateur allait très loin, là, voulait même interdire la participation des personnes transféminines au sport féminin. Ça allait loin, mm-hmm. là. Est-ce que tu as rencontré des difficultés à recueillir toute cette information-là? Parce que là, je pense que tu travailles toute seule là-dessus, là.
Pour l'instant, oui, mais je dirais l'enjeu pour moi, recueillir les infos, ce n'est relativement pas difficile parce que c'est souvent très bien publicé, surtout dans les médias locaux, mm-hmm. quand il y a des actions anti-trans qui se déroulent.
On en parle beaucoup ici à l'heure où l'arc-en-ciel oui. s'élève.
Sans prendre les médias qui prennent en compte comme ouais. la politique puis tiennent les politiciens responsables.
Ouais.
Mais en même temps, je dirais l'enjeu, c'est aussi de surveiller les développements plus au niveau municipal, scolaire, à des niveaux un peu plus miniatures, disons ça. Puis également un peu le sentiment populaire parce que, je veux dire, il n'y a quasiment pas de personnes trans qui ont comme des pieds dans toutes les provinces canadiennes. Puis même moi, je veux dire, ma vision sera certainement limitée par le fait que j'habite ici à Montréal, qui est considérée comme l'une des villes les plus sécuritaires pour les personnes trans en Amérique du Nord.
Il y aura peut-être d'autres personnes qui écoutent l'émission qui vont peut-être essayer de t'aider dans tes démarches. Je vais sauter quelques questions, mais il y a des choses que je trouve importantes. Mm-hmm. Parlons un peu là, de c'est où les endroits les pires pour les personnes trans au Canada?
Certainement l'Alberta, je dirais, ouais. mais aussi en général, je veux dire, c'est souvent les municipalités rurales où est-ce qu'il y a une absence de services pour les personnes trans. Le communautaire, ça existe dans les grandes villes. Les grosses fondations, ça perd dans les grandes villes. Ouais. Souvent, c'est pourquoi est-ce qu'à Montréal, tu n'auras pas d'enjeu, mais par exemple, imagine, dis-y, à Lac-Mégantic ou comme Thetford Mines, tu n'auras rien. C'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas de... Il n'y a pas de services qui vont aller rejoindre les personnes où, genre, elles sont. Parce qu'actuellement, très souvent, les services priorisent seulement soit les grands centres ou peut-être une force québécoise, les petits centres tels que Trois-Rivières, tels que Drummond, tels que Victoriaville, genre les petits centres se font aussi se desservir, mais rien de plus petit que ça.
Qu'est-ce que tu dirais aux personnes trans qui vivent dans des milieux difficiles?
Je dirais la première chose, c'est de garder espoir parce que ce n'est pas facile d'être une personne trans, surtout en 2024, mais de rester en vie, c'est important. Puis, juste rester en vie, c'est une forme de résistance envers justement les politiques, les lois, les pratiques anti-trans qui se font propager aussi largement des médias en ce jour.
Là, je vais terminer là-dessus parce que ça fait partie de toutes les discussions qu'on a, mais je pense qu'on va y aller. Est-ce que ça fait quelques années que tu fais cette carte-là? Est-ce que ça s'améliore ou c'est pire?
Ça fait environ un an et demi, quelque chose que je le fais. Puis j'ai définitivement à dire que certaines de mes prédictions, telles que l'Alberta étant comme du rouge foncé, disons que j'ai des bonnes prédictions, mais en même temps, je dois le dire, j'ai aussi pas eu des choses parfaites, telles que, par exemple, j'aurais jamais pensé que la Colombie-Britannique aurait comme été aussi proche d'avoir un takeover de l'extrême droite.
Ouais.
Donc, c'est sûr que, disons, j'ai dû me raffiner beaucoup. Puis disons que...
Est-ce qu'on peut dire des bonnes choses de Nouveau-Brunswick qui va peut-être tout changer?
Ça s'améliore. Ouais. Ça s'améliore définitivement en ce moment. Mais je dirais que c'est peut-être ça, puis le Manitoba, c'est les seules juridictions avec des réels améliorements.
Et cette journée qui s'en vient, en fait, quand ceux qui nous écoutent en direct, elle s'en vient, sera peut-être déjà passée au moment qu'ils vont nous écouter en rediffusion ou en balado, la journée du souvenir trans. C'est important. Est-ce qu'il faut le souligner à chaque année?
Oh, absolument. Le dire, ce n'est non seulement pour les personnes trans qui se font tuer, qui sont des victimes de meurtre ou d'homicide, mais également toutes les personnes trans qui ont vu leur vie enlevée ou se sont enlevées la vie à cause de négligence gouvernementale ou d'action ou d'inaction gouvernementale. Le jour après l'élection, j'ai vu comme un post sur Blue Sky d'une militante et juriste trans américaine, Alejandra Caraballo, qui mentionnait comment est-ce qu'elle a été mise au courant de 3 suicides de jeunes trans dans les 24 dernières heures.
Aïe, 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 aïe.
C'est des histoires cauchemardesques, trop souvent influencées par la politique. Ça devrait pas être comme ça, mais c'est là qu'on se retrouve en ce moment. C'est justement, il y a trop de personnes trans qui meurent en ce moment, non parce que leur santé est mauvaise, non parce que...
Parce qu'elles sont découragées. Ouais. Et exact. Toi, comment tu te sens présentement, personnellement? Parce que là, tu es très visible, tu es une personne connue maintenant et tu es une personne trans. Comment ça se passe pour toi?
C'est pas facile. Puis je veux dire, comme se faire viser par la haine, c'est quelque chose que je ne souhaiterais sur personne. Mais en même temps, tiens, j'essaie de me gérer. L'important, c'est d'avoir des liens, d'avoir des connexions, des amitiés, etc., qui me permettent justement à être bien plus résiliente que je le serais toute seule.
Céleste Triano. Mon Dieu, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour ce beau témoignage.
C'est un plaisir.
Merci.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Transcontinent Queer, des nouvelles d'un bout à l'autre du Canada.
Et oui, on a beaucoup parlé des élections aux États-Unis depuis presque 2 semaines maintenant, notamment avec le retour de Donald Trump 2.0, et la prise de contrôle totale du Congrès par son groupe et des craintes pour les personnes de la diversité et de genre, diversité sexuelle et de genre. Bien, il y a eu 3 élections provinciales qui ont peut-être passé inaperçues pour nous au Canada, puis il y en a une autre qui s'en vient en novembre dans la Nouvelle-Écosse. Eh bien, des décisions politiques avec plein de conséquences aussi pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre ici au Canada. Alors, pour en discuter, je reçois nos correspondants et correspondantes, Dan Robichaud à Clare, en Nouvelle-Écosse, Arnaud Baudry à Toronto et Roseva Forge-Jenkins à Edmonton. Salut tous les 3!
Bonjour!
Alors, on va commencer dans l'Ouest. C'était une grosse journée, Roseva. On va parler de, avant de parler d'élections, on va parler de l'Alberta et de Danielle Smith, la première ministre, qui s'en prend aux communautés trans. Et pas rien qu'un peu, là.
Oui, non, c'est vraiment affreux. Elle a vraiment rédigé les politiques qu'elle veut mettre en place pour, tu sais, vraiment, elle a parlé des pronoms des jeunes, donc les jeunes qui sont à l'école, qui demandent le consentement des parents pour avoir changé leur pronom ou leur nom à l'école. On a parlé des sports, tu sais, des femmes trans qui participent dans les sports, et ainsi que le fait d'avoir accès aux bloqueurs de puberté pour les jeunes.
Oui, c'est assez... en fait, on a parlé un peu avant avec une personne qui expliquait justement que c'est vraiment désastreux là, ce qui se passe, les personnes trans en Alberta. Alors, comment, c'est quoi les réactions? Est-ce qu'il y a de la mobilisation? Comment ça fonctionne? Là? Parce que c'est quand même assez sérieux, là.
Oui, absolument. C'est quelque chose qu'on est très, on est tous très, très inquiets parce que c'est elle a le pouvoir comme gouvernement conservateur. Par contre, en Alberta, on a quand même un gouvernement NPD qui est très contre, qui est très vocal, qui dit c'est pas correct, qu'est-ce qu'elle fait?
Oui, l'opposition du NPD, tu me disais, oui, OK. Oui.
Oui. L'opposition du NPD, c'est que l'Alberta, on mérite mieux, ces jeunes méritent mieux, ces jeunes méritent d'être en sécurité, puis ils savent que ce que Danielle Smith propose, c'est vraiment dangereux. Et on voit aussi des organismes, une organisme national égal Canada, ainsi qu'un organisme à Calgary qui s'appelle Skipping Stone Foundation. Oui. Ils disent que si ces lois passent, qu'ils vont prendre action juridique contre le gouvernement de l'Alberta.
En tout cas, on a entendu parler là, de personnes qui se sont suicidées aux États-Unis, des personnes trans, là, à la suite des élections présidentielles là-bas. J'espère qu'on ne verra pas la même chose en Alberta. Est-ce qu'il y a des cas qui sont rapportés? Est-ce qu'on entend parler que les gens sont en détresse là, vis-à-vis de tout ça?
Bien, les jeunes, oui, qu'on voit, tu sais, on voit beaucoup des gens qui participent à des manifestations, on voit des positifs, puis, tu sais, les jeunes sont inquiets, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas, des taux de suicide, mais c'est juste l'inquiétude des parents, de tout le monde, de la communauté.
Ouais, écoute, c'est vraiment grave. Écoute, on va aller faire un petit tour du côté de l'Atlantique, parce que là aussi, il se passe des choses au niveau politique. Tout un revirement qu'on peut qualifier peut-être d'encourageant pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre, le Nouveau-Brunswick a montré la porte au gouvernement conservateur de Brian Higgs, qui, on se rappelle, qui avait adopté des mesures très, très, très dures envers les jeunes trans. Dan, parle-nous de ça.
Ben oui, c'est une victoire importante pour les communautés queer et trans au Nouveau-Brunswick. Le Parti libéral a remporté les élections. Ça a mis fin quasiment tout de suite au mandat de Blaine Higgs, le gouvernement conservateur, qui avait instauré les changements controversés, notamment la réforme de la politique 713, qui rendait bien plus difficile pour les jeunes trans de trouver un milieu sécuritaire chez les écoles.
Ouais, puis en fait, même lui, Brian Higgs, a perdu dans sa propre circonscription. Hein. C'est vraiment un désaveu total. Hein.
Tout à fait. Puis pas juste au côté queer et trans, aussi mais du côté de la femme, ouais. Parce que c'est la plus jeune. C'est la première fois que c'est une femme première ministre au Nouveau-Brunswick. Et on a déjà vu qu'elle a fait des changements, elle a fait des reversements sur des politiques au sujet de la femme et l'avortement. Puis on attend juste pour voir quand est-ce qu'il va être le jour qu'elle va faire renverser les changements de la politique 713. Mais c'est un gros soulagement qui sort de tout le Nouveau-Brunswick que finalement on peut respirer.
On va retourner dans l'Ouest. Deux élections provinciales ont eu lieu là-bas. Le très conservateur Scott Moe en Saskatchewan a été réélu, mais avec une courte majorité. Ça veut dire quelque chose. Est-ce qu'il y a des espoirs maintenant pour les personnes trans ou le mouvement, en fait, pour bloquer ses ambitions anti-trans à Scott Moe?
Oui, c'est intéressant parce qu'une des choses qu'il a dit, c'est quand je serai élu, une des premières choses, ça va être regarder aux jeunes. On sait que la loi, que les jeunes pour leur pronom, que les jeunes pour demander le pronom, pour changer le pronom à l'école. Mais il a dit, ma priorité, si je gagne l'élection, ça serait que les vestiaires, que tu sais, il parle du, on met en guillemets, sexe biologique, que les personnes, dans les jeunes aux écoles, il faudrait qu'ils changent dans les, tu sais, où est-ce qu'il dit, les sexes biologiques pour les vestiaires de changement. Alors ça, c'est quelque chose qui est très, très, très inquiétant. Et juste après qu'il a annoncé ceci, il a dit, oh non, j'ai dit quelque chose, j'ai mal parlé, c'est pas ça que je voulais dire, c'est pas ma première priorité, c'est quelque chose que je veux parler, je veux en faire plus tard, c'est quelque chose que je veux en parler, mais c'est pas numéro un, j'ai mal dit ça, c'est quelque chose que je veux faire plus de consultation. Ouais. Alors, tu sais, peut-être que le fait qu'il a changé ce qu'il dit, c'est que tu sais, il s'est fait taper ses doigts, puis c'est que quelqu'un lui a dit, c'est pas correct, on peut, tu sais, on commence pas avec ça, là, alors.
Ben, de toute peut-être. Façon, le résultat des élections a démontré que son parti est pratiquement évincé des régions municipales, des régions urbaines. Il a passé très proche de perdre cette élection-là, quand même, là. On parle peut-être pas d'aussi serré qu'en Colombie-Britannique, mais quand même, justement. Écoute, on va aller en Colombie-Britannique, réélection du NPD, mais là aussi, la majorité est courte, c'est ce qu'on doit craindre, là.
Mm-hmm. Oui, non, je pense que c'est quelque chose que, tu sais, on sait qu'avec la NPD, on est en sécurité en CB pour les personnes queer et trans, mais c'est ça, le fait qu'il y a tellement de conservatisme, je pense que les gens, quand on pense à la CB, on pense « Oh, Vancouver, Victoria, tout est très libéral ». Mais il faut s'en souvenir que le CB, c'est très grand. Il y a beaucoup d'autres municipalités que c'est encore très conservateur. Alors, je pense qu'il faut quand même être vraiment sur la défensive puis être certaine que la CB, qu'on reste dans la NPD parce que c'est le fait que c'est tellement proche, c'est inquiétant.
Bien, de toute façon, le chef du Parti conservateur hein, avait quand même des positions aussi assez inquiétantes, non seulement au sujet des pronoms puis des comme ailleurs, mais lui aussi voulait interdire tout ce qui était référence queer ou trans dans les livres, hein, dans les écoles, dans les bibliothèques. C'est assez sérieux, hein?
Mm-hmm. Oui, très extrême. Puis d'autres personnes dans son parti aussi, c'est pas juste lui, mais d'autres personnes aussi dans son parti qui sont très... très conservateur. Donc, c'est inquiétant. Puis, tu sais, c'est ça, on a peur, là.
On va retourner faire un petit tour dans l'Est, puis on s'en va en Ontario après. Mais on va aller voir, Dan, il y a des élections en Nouvelle-Écosse. C'est prévu le 26 novembre. Qu'est-ce qu'on peut dire là-bas?
Bien, pour la Nouvelle-Écosse, on peut dire que c'est un peu moins polarisé que dans d'autres provinces. C'est moins à la... où les questions queer et trans sont moins à la une que dans certaines autres provinces. Le gouvernement conservateur actuel a point vraiment pris de position ou de mesures ouvertement hostiles contre les droits des personnes trans ou queer, mais il faut dire que pour les conservateurs, l'engagement reste un peu timide. C'est plutôt à l'opposition libérale ou néo-démocrate qu'on propose plutôt des changements et des engagements plus fermes en matière d'inclusivité trans et queer. Et beaucoup de ça, c'est des retombées des manifestations pour la politique 713 au Nouveau-Brunswick et d'assurer que cela n'arrivera jamais en Nouvelle-Écosse.
Ah,
Alors, des choses.
ben oui, parce que lui, il doit regarder un peu ce qui s'est passé au Nouveau-Brunswick. Il s'est dit, oh boy, je m'en vais pas dans cette route-là, là.
Donc, les enjeux sont présents, même si qu'au niveau de la campagne, on ne le met pas par en avant, les enjeux sont présents.
Avant d'aller parler de l'Ontario et puis de la fermeture bientôt là, du Centre canadien de la diversité sexuelle, j'aurais le goût de vous poser la question, je n'étais pas préparé, mais quand on regarde ça augure comment pour les fédérales? Parce qu'il y a des élections fédérales en 2025, là, ça s'en vient plus vite que plus tôt que plus tard. Est-ce qu'on peut craindre, surtout que le gouvernement en place ici de Trudeau est très peu, en fait, il est en difficulté. Je pense que je vais lancer Arnaud là-dessus.
Bah, écoute, vu le tableau qu'on dresse là, c'est quand même très inquiétant. Plus le contexte aux États-Unis, il y a comme un vent de conservatisme dans l'air, donc c'est pas de bon augure. Mais justement, d'où l'intérêt de mettre les sujets sur la table et de continuer à parler des enjeux, parce que ça reste des enjeux d'actualité.
Oui, puis je ne sais pas si le message va être envoyé aux conservateurs fédéraux, là, que si vous parlez trop de choses anti-trans, ça peut vous nuire, comme ce qui s'est passé au Nouveau-Brunswick, peut-être. Qu'est-ce que tu en penses, Dan?
Oui, absolument. Le plus gros danger, comme moi je suis tout le bout de le sait, je suis séropositif. Ça fait qu'au niveau fédéral, il y a une couleur que moi je ne voterai jamais pour parce qu'il peut se faire des rebours qui me coûteraient très cher, littéralement me coûteraient très cher. On pourrait couper du financement qui va aux provinces qui est utilisé pour les médicaments pour les personnes avec le VIH. Et si on parle de garder le statu quo, ben on parle, nous autres, on parle dans la communauté de faire des améliorations sur le système qu'on a. C'est pas une question de garder le statu quo. Alors, il faut voter au niveau fédéral en vertu de ça.
Mais bon, puis je vais aller faire un petit tour en Alberta. Roosevelt, moi, j'ai vécu en Alberta, puis on avait un dicton à l'époque. On disait, tu prends une boîte de cornflakes, ta peinture en bleu, puis elle va gagner ses élections pour le Parti conservateur. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais le fait, là, qu'il y a quand même des... Tu sais, Scott Moe s'est fait dire que tu vas peut-être trop loin. Les élections, les résultats des élections ont montré là, que c'est peut-être trop. On a vu ce qui est arrivé aux conservateurs au Nouveau-Brunswick quand ils prennent le virage conservateur social. Est-ce que toi, tu sens ça que peut-être que les conservateurs fédéraux qui ont quand même 20 points d'avance, qui ont le vent dans les voiles, est-ce que ça pourrait les faire réfléchir avant d'aller en campagne électorale puis de faire une campagne sur le dos des personnes trans et queer?
En Alberta, comme on sait, il y a quelques petits points de NPD, mais il y a tellement de conservatisme que ici, c'est vraiment. Puis on voit beaucoup c'est très classique Alberta, beaucoup de camions qui disent un mot
Oui, le mot en F
Trudeau,
qu'on peut pas
disons.
dire en onde, oui.
Alors.
Ouais. Fait que c'est...
Exactement. C'est quelque chose qu'on voit très, très, très souvent. Alors, je pense que les libéraux en Alberta, c'est pas quelque chose que les gens sont grands fans. Alors, c'est ça que j'ai peur qu'on voit au lieu que les gens voient aller vers les conservateurs.
Ouais. Bon, on va aller faire un petit tour en Ontario parce que Arnaud Baudry, il y a une très mauvaise nouvelle pour les communautés de la diversité sexuelle et de genre chez vous.
Oui, la mauvaise nouvelle, c'est que le Centre canadien pour la diversité sexuelle et de genre a fermé ses portes pour banqueroute en octobre. Et c'était un peu une grosse surprise parce que ça n'a pas été vraiment annoncé en avance. En plus, ils étaient comme cet été, ils venaient de finaliser un accord entre leurs membres comment unionisés là,
Ouais,
comment on dit.
les syndiqués, oui, une entente de principe avec leurs
Voilà,
syndicats, oui.
merci. Et puis la direction, et ça, c'est donc c'était comme si c'était en avant. Puis là, grande surprise. Donc, ils ont fermé leurs portes après 19 ans d'existence.
Wow.
Puis, c'était vraiment un centre important pour les jeunes, parce qu'ils offraient des programmes contre l'intimidation, l'homophobie et la transphobie, autant dans les écoles, auprès des jeunes, auprès du personnel, puis auprès de la communauté en général.
C'est un peu comme le gris ici à Montréal, mais moi, je me demande, ça met en lumière là aussi la précarité là, des organismes LGBTQ+ au Canada.
Oui, la précarité des financements et puis aussi le désalignement entre les besoins qui sont exprimés dans la communauté et puis les sources de financement pour répondre à ces besoins. Et c'est sûr qu'on le vit. On le vit au quotidien, c'est le stress du financement qui nous dérive un peu de notre mission. Ça serait vraiment formidable d'avoir une politique de financement des organisations communautaires qui leur permettent de vraiment se focaliser sur leur mission. Donc des financements à la mission qui permettraient aux organisations de livrer leur service et de se focaliser sur la livraison de services plutôt que s'inquiéter des sources de financement et de travailler sous le stress en mode projet avec des financements courts.
Oui, c'est beaucoup ce que disent les organismes communautaires. Ils sont financés, ils sont sous-financés et mal financés parce qu'on les finance par projet, puis ils doivent toujours adapter leur programmation au niveau des projets. Ça, c'est compliqué, puis c'est un travail qui est très chronophage pour les organismes. Toi, tu gères l'organisme Franco-Queer. J'imagine que c'est quelque chose que tu fais au quotidien, ça.
Oui, c'est effectivement chronophage et compliqué. Et c'est assez étrange aussi dans l'optique de se dire il faut toujours trouver des nouveaux projets, alors que parfois il y a des choses qui fonctionnent, qui ont fait leurs preuves et qu'on veut continuer à livrer. Mais non, il y a des programmes de financement qui vont nous demander de se renouveler. J'entends et je comprends parce que c'est important de se renouveler et puis d'apporter des choses nouvelles, mais c'est aussi important de soutenir les choses qui fonctionnent. Et je pense qu'il y a des programmes de financement qui pourraient être vus ou créés à la lumière des besoins de la communauté et à la lumière du fonctionnement des organisations, surtout quand on est des petites organisations communautaires qui n'ont pas beaucoup de moyens. Donc on va essayer quand même de privilégier les moyens vers la livraison de services plutôt que vers l'administratif et la bureaucratie.
Merci beaucoup à toi, Arnaud Baudry à Toronto. Merci aussi à Dan Robichaud à Clare, en Nouvelle-Écosse, et puis à Rose-Eva Falk-Jenkins à Edmonton. Merci.
Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heurciel@gmail.com, heurciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram. @DM Chabot auteur et sur LinkedIn, Denis trait d'union, Martin trait d'union, Chabot.
Alors, deuxième partie, on parle du festival Imagination et d'un marché de Noël bien spécial.
Où l'arc-en-ciel se lève. Avec Denis Martin Chabot.
Et puis, dans cette deuxième partie, un marché de Noël bien spécial, pour ne pas dire jouissif. Mais avant, on va parler d'Imagination et de sa 37e édition.
Discussion. Entrevue.
Eh bien voilà, le festival Imagination, festival de cinéma queer, revient cette année avec une grosse programmation. Et pour en parler, on reçoit la direction générale artistique du festival Imagination, Charlie Boudreau. Salut Charlie.
Bonjour Martin, ça va?
Ça va très bien. Écoute, un rappel des pronoms et accords avec toi. On parle.
Oh, moi, appelle-moi Charlie. Ciao.
Gros festival cette année, Charlie. Je sais que. On ne peut pas tous les nommer, mais qu'est-ce qu'on doit souligner en termes de films à voir là, cette année?
Ah, ben là, j'aime pas cette question-là. Tu sais que j'aime tous mes enfants, hein?
Mais donc, si tu avais...
Il y a un peu d'un gros coup qu'on a eu cette année, c'est qu'on a eu on a pu avoir le film Queer, qui est un film très attendu du directeur de Call Me By Your Name. Les gens qui connaissent le festival se souviennent de ce film-là qui a ouvert notre festival il y a quelques années. Donc, ça, on le joue deux fois. Fait que la soirée d'ouverture est presque complète. C'est en ouverture, mais il y a une deuxième projection. Donc, vous ne ratez pas le film. Ouais. À part ça, on a un Focus Acadie, par exemple. On offre Il y a une étoile, qui est un extraordinaire documentaire qui a été produit par Julien Cadieux.
Oui, que j'ai déjà vu. Super.
Les gens qui connaissent son travail, sauf qu'il est un génie du documentaire. C'est aussi une nouvelle voix de l'Acadie. Il y a peu de voix de l'Acadie. Et il représente bien la culture, l'identité. Qu'est-ce qui se passe présentement? C'est l'Acadie actuelle. Et ça, on l'offre, il est à l'ONF, mais on l'offre gratuitement aux gens pour une projection. Et avant la projection, dans notre nouvelle série Imagination Connexe, qui est une série de conversations avec les cinéastes autour de leur film, on va avoir Julien Cadieux sur place qui va nous parler de lui et du film. Donc, ça, c'est nice.
C'est superbe. Je me souviens, écoute, parce qu'on va recevoir quelques réalisateurs et réalisatrices dans cette émission un petit peu après cette entrevue, mais je me souviens qu'on s'était dit qu'en raison de la pandémie, il y aurait comme un ralentissement de production cinématographique après, parce que les gens n'avaient pas eu le temps de produire beaucoup, n'avaient pas eu l'occasion de produire beaucoup. Ça s'est réglé, ça, depuis?
Oui. Oui, c'est bien réglé. La production est en bonne forme. Vous allez voir ça en allant. C'est plus facile si on envoie nos charmants auditeurs et auditrices à notre site web pour découvrir la panoplie de merveilles qu'on a pour cette année. Mais ça, on en parlera plus tard avec l'adresse courriel, le URL.
Oui, on va le nommer tout à l'heure.
Oui.
J'aimerais aussi t'amener, parce qu'on commence avec un film qui s'appelle Queer, et on sait que présentement, il y a comme un climat d'intolérance, parfois même très violent, envers nos communautés un peu partout sur la planète. On l'a vu avec les élections américaines récemment. En quoi ça joue dans les productions qu'on va voir cette année?
Excuse-moi, peux-tu...
Climat d'intolérance-là, ça joue? Est-ce que ça se reflète dans les productions qu'on va voir cette année?
Pas particulièrement. On n'a pas eu beaucoup de soumissions qui parler de situations particulièrement difficiles. On n'a pas fait notre sélection selon ces critères-là. On a fait, comme d'habitude, nos sélections selon l'originalité des propos, les pays d'où ils venaient, etc. Et puis, il y a très peu de cette, si on veut, de cette ambiance dans les films qui sont là aussi pour apporter, si on veut, un peu plus de complexité sur la présence et l'existence queer dans la société. Donc, on ne parle pas de ça. On parle de questions d'amour, comme tout le monde, des questions d'amour. On a perdu notre job, qu'est-ce qu'on fait? Des complexités sociales qui sont pas nécessairement issues de l'homophobie, mais dans d'autres pays, par exemple, en Roumanie, etc. Comme il y a des films où on parle plutôt que c'est difficile d'exister et de vouloir avancer dans le monde, et ça donne qu'un ou deux des personnages sont queer. Donc, c'est pas particulièrement plaisant.
Maintenant, c'est peut-être trop tôt pour en parler aussi, là. Dis-moi, Charlie, donc, on a une programmation en salle qui va être assez phénoménale, puis on peut le dire, là, les gens qui veulent y aller, il y a un site web, on va le nommer à la fin de cet entretien, oui. Mais il y a une programmation en ligne aussi. Ça date de la pandémie, puis vous avez gardé ça.
Oui, ça date de la pandémie. On l'a gardé parce qu'on y tient. C'est pas facile de le faire, mais on y tient absolument parce que c'est important que les gens puissent se voir à l'écran. Et c'est pas tout le monde qui, même s'ils sont à Montréal, peut venir en salle. Et c'est surtout important que le tout est disponible à travers le Québec. Et je dis pas que tout le festival est disponible. On ne peut pas présenter tous les films en ligne, mais il y a une bonne partie de la programmation qui est en ligne. S'y inclut la vaste majorité des programmes de court-métrage. Puis ça, c'est super le fun, les programmes de court-métrage. Et il y a aussi une partie de la programmation, la programmation canadienne qui est disponible dans le Canada. Donc, oui, important de le garder et on va continuer à le garder pour cette raison-là.
Bon, écoute, je vais devoir l'avouer qu'on enregistre l'entrevue chez moi et puis mon chien a décidé qu'il participait à l'entretien. Cela dit, Charlie, est-ce que la production cinématographique queer se porte bien, d'après toi?
Moi, d'après ce que j'ai vu cette année, se porte très bien. Il y a plus de variations, ce qu'on aime bien. Il y a plus de pays. On a un film de la Géorgie, on a, comme je disais tantôt, des films des pays de l'Est. C'est toujours intéressant de voir ces perspectives-là. On a un film de la Lituanie. Et puis, les old favorites, comme on dit en anglais, l'Italie, la France, les Pays-Bas, tout ce monde-là est là. Donc, il y a une bonne production internationale, une bonne, super bonne qualité de films aussi, et beaucoup plus de films canadiens qui vraiment, vraiment marquent la production cinématographique cette année.
Donc, après presque, ça fait combien de temps, là? 38 ans? 38e édition, peut-être?
Ben non, c'est la 37e.
37e édition, wow!
Avance-nous pas, vieillis-nous pas, toi.
37e édition, quand même, ça dure longtemps. Donc, t'as dû voir, t'es là depuis les tout débuts, là, t'as vu cette évolution, ça va bien. Donc, même quand on regarde l'évolution là, de la cinématographie.
L'évolution, ben, comme je dis souvent, c'est tellement un privilège d'avoir été là depuis le début et de voir tout ça bouger, comment on se définit, comment on parle de nous, comment on se présente à l'écran. Aussi avec la capacité de création, de production, je devrais dire, qui est beaucoup plus accessible maintenant qu'elle l'était il y a 30 ans. On n'a plus besoin d'une équipe de tournage avec un 35 mm. Les gens font des merveilles avec des téléphones, avec des équipements beaucoup plus accessibles. C'est sublime de voir la diversité des voix qui se présentent et qu'on peut partager avec le public.
Génial. Eh bien, justement, c'est le temps de le dire. Alors, pour avoir toutes les informations sur le festival Imagination, on va où pour trouver ça?
Vous allez sur image-nation.org, image-nation.org. Arrivez là, vous arrivez sur notre site de culture queer qui contient toutes nos productions, inclut le festival de cours et d'autres, et vous cliquez sur l'icône ou la boîte du festival Imagination qui est en cours présentement, et vous y rendez au site du festival de la 24.
Et c'est tout nouveau. Ben, génial. Merci beaucoup, Charlie Boudreau, direction générale artistique de Festival Imagination. Bon succès.
Ben, merci énormément de m'avoir accueilli.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot.
Eh bien, nous poursuivons avec deux personnes réalisatrices de courts-métrages qui vont être présentées pendant le Festival Imagination. Je reçois donc Atif Siddiqui, je prononce bien votre nom. Oui. Ton nom, j'aurais dire, tu présentes Beauty is Revenge. Bienvenue à l'émission.
Merci.
Et on utilise quel accord et quel pronom avec toi?
Il, elle.
Il, elle, ou il aussi, oui, les trois? Oui, d'accord. Et là, moi, on m'a dit que tu t'appelais La Mathilde.
Oui.
Voilà, La Mathilde qui présente Legacy of Joe Rose, Queer Bars and Police Brutality. Bienvenue à l'émission.
Merci.
Alors, on utilise quels accords et quels pronoms avec toi?
Pour moi, c'est elle.
Elle, d'accord. Atif, je vais aller à toi tout de suite.
OK.
Tu nous présentes un court-métrage de 14 minutes.
Oui.
Sur une expérience que tu as vécue. Peux-tu, sans trop revivre le trauma, on va s'entendre, j'ai pas le goût de te faire revivre ça, mais il faut en parler un petit peu. Qu'est-ce qui t'est arrivé?
C'était en 2018 que j'ai rencontré un homme en ligne. Puis le même jour, il a insisté de me voir et venir me voir chez moi. Puis il est arrivé, puis il m'a demandé qu'est-ce que j'aimerais boire, qu'est-ce que j'aimerais manger. Puis il a venu avec une pizza, puis avec une bouteille du vin. Puis je ne savais pas, il a mis le GHB dessus, puis je l'ai mangé. Il m'a offert un morceau, puis je l'ai mangé. Puis une heure et demie après, je dormais, puis il a m'agressé, puis il a aussi me volé. Il a volé beaucoup de choses, tous mes électroniques.
Wow. Je suis vraiment désolé d'entendre ça. Surtout qu'on sait que le GHB, avec l'alcool, ça peut être mortel.
Oui,
ouais.
C'est la première fois parce que je ne consomme pas, donc c'était horrible pour moi de vivre ça.
Je suis vraiment désolé d'entendre ça. Alors, pourquoi tu as décidé d'en faire un film?
Parce que j'ai voulu avoir plus de discussions sur ce sujet, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne parle pas de ça. Il y a beaucoup de honte et les choses comme ça. Puis ils pensent que personne ne veut savoir qu'est-ce qui se passait. Puis peut-être ils sont embarrassés ou quelque chose. Donc, c'est pour ça que je voulais partager et faire comme raise the awareness.
Excusez-nous, on entend. Oui, continue, oui.
Oui, c'est ça.
Donc, pour sensibiliser les gens.
Oui, c'est ça. Fait.
C'est quoi la vengeance, finalement? Parce qu'on parle de revenge. Ah, c'est quoi la vengeance?
Vengeance, pour moi, c'est de créer de l'art de ce trauma. Oui, ouais. Donc, j'ai créé des chansons, puis après les chansons, j'ai toute l'histoire, c'est dans mes chansons, puis j'exprimais toutes mes émotions dans ces chansons, puis ça m'a aidé de guérir de cette situation que j'ai vécue.
Moi, j'avoue que bon, je suis un des privilégiés parce qu'on m'envoie les liens. J'ai horreur de faire des entrevues quand je n'ai pas vu les films en question. Mm-hmm. J'ai vu ce que tu as proposé. Beaucoup, beaucoup d'efforts au niveau de la présentation, l'esthétique visuelle. C'est important pour toi aussi? C'est ça ta beauté? C'est ça?
Oui, c'est ça. La beauté de la musique et les paroles et puis après les images et la présentation.
Oui, donc. Et puis même toi, tu te mets très en évidence dans de très beaux vêtements aussi. Là, j'en vois ça. C'est...
Oui, c'est pour transformer l'énergie parce que ouais. L'énergie qu'on vécu ce événement comme ça, c'est comme la haine puis la colère et toutes les émotions négatives. Donc, qu'on transforme ça avec l'art, ça devient quelque chose qu'on aime.
Oui, puis ça, je pense que c'est un peu cathartique aussi pour toi. Oui. Merci beaucoup. On va juste faire un autre petit tour de l'autre côté. Alors, dans La Mathilde, en 4 minutes et 27, tu fais état d'une période bien noire de l'histoire queer. Puis les gens, parfois, oublient que c'est, puis c'est très récent aussi. Alors, pourquoi dresser ce bilan en 2024?
Alors, c'est une vidéo qui date d'il y a déjà 2 ans. Et c'était un projet que j'avais fait avec des étudiants de Dawson. Et l'idée, c'était de leur donner des informations qu'ils n'avaient pas. Ils sont jeunes, ils ne connaissent pas l'histoire gay de Montréal. Et même la plupart d'entre nous qui sont plus jeunes ne connaissent plus cette histoire des bars et des descentes de police et de la violence avec laquelle la police descendait. Et surtout, en fait, l'homophobie dans la ville, les meurtres, quoi. Les gens se faisaient tuer. Donc, Joe Rose s'est fait tuer en 89.
Oui, rappelons un peu les faits, il s'est fait tuer dans un autobus.
Dans un autobus par d'autres très jeunes garçons, en fait, hein, entre 14 et le plus âgé avait 18 ans ou 19 ans, je ne sais plus trop. Donc c'est un projet d'étudiants au départ, c'est un projet de réalité augmentée où les étudiants de Dawson devaient un peu parler de leur quartier. Et je leur ai dit, mais dans Dawson, vous savez qu'il y a Joe Rose qui a été là, qui a monté le premier collectif LGBT, des cégeps à l'époque, donc c'était début des années 80, et c'est lui qui a fait ça et il s'est fait tuer. Donc il y a une histoire dont il faut parler, renseignez-vous, allez regarder autour de vous et on va faire une vidéo. Donc chacun des étudiants a fait une vidéo, moi j'ai fait une vidéo un peu de collage assez simple, en fait c'est très 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 éducatif cette vidéo. Et maintenant elle est dans un festival, je suis très contente et c'est vraiment autour de cette grande violence des années sida aussi, on n'en parle plus.
Mmh. Ben, en fait, je pense qu'il était séropositif, Joe Rose, si je ne me trompe pas. Ouais.
Ouais.
Moi, j'avoue que c'est très efficace. Parce qu'il y a un collage d'images et puis ça te rentre d'en face. Là, puis, moi, ça frappe. Hein?
C'est de la propagande. Littéralement.
Ben, je reviens à la question. En 2024, on vit une période assez intense au niveau de cette remontée de la haine envers nos communautés. Comment tu l'inscris là-dedans, toi, ce film?
Eh bien justement, comme un espèce de miroir en disant aux gens, regardez, ça c'est déjà fait, ça va se refaire, soyons prêts et soyons solidaires en fait. Et n'oublions pas le passé et créons des alliances en fait, des alliances LGBTQ, A+, tout le monde ensemble parce que
le backlash, le ressac
va être énorme et il faut qu'on soit vraiment solidaires tous. Et
je pose la question à toutes les deux. Pourquoi, c'est quoi l'importance de participer à un festival comme Imagination?
Pour moi, j'ai une histoire longue avec toutes mes œuvres de passé. Donc, j'ai voulu présenter ce film dans ce festival parce que l'événement est arrivé aussi à Montréal. Donc, c'est important pour moi d'avoir un sens de communauté et le support de communauté pour partager cette histoire.
Et toi, la Mathilde?
Ben moi, ça fait des années que mes vidéos passent dans ce festival, donc c'est comme une espèce de routine, mais c'est toujours important qu'il y ait plusieurs personnes qui puissent voir le film. Et ouais, comme ça va être sur Internet, la diffusion va être sur Internet pendant toute la durée du festival, donc c'est accessible à beaucoup de monde.
Des projets, toutes les deux?
Oui.
Oui.
Est-ce qu'on peut en parler rapidement? Qu'est-ce que tu as en tête comme projet?
Projet
cinématographique, peut-être?
Après celui-là, oui. J'ai un projet que je n'ai pas complété. Il y a 10 ans que j'ai commencé celui-là, puis j'avais arrêté à cause de cet événement.
Ouais.
Donc, je veux reprendre ce projet.
Et rapidement, ça parle de quoi?
C'est plus une histoire de famille et de s'acceptation. Puis
Oui, parce que j'ai oublié de dire que tu es quand même originaire, je me rappelle
du Pakistan.
Du Pakistan. Oui, quand on est une personne qui a un récit d'immigration, c'est pas toujours facile. Je vais aller rapidement à la Mathilde des projets.
Oui, j'ai un projet en réalité virtuelle où, en fait, on se permet de combattre des insultes homophobes et toutes sortes d'insultes, donc avec nos vrais points.
Ben, merci à toutes les deux, à Tsitsi Siddiqui et la Mathilde, tous les deux réalisatrices de films qui vont être présentés lors du Festival Imagination. Merci beaucoup.
Merci, bonsoir. Beaucoup.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
On a pris un petit peu plus de temps entre les deux entrevues. Vous comprenez qu'on est en direct, puis des fois, il faut changer les invités de place assez rapidement. Alors, c'est ça qui arrive. Du 21 au 23 novembre 2024, le Bain Mathieu à Montréal accueillera la toute première édition du Noël jouissif. Ça, c'est intéressant. C'est un marché unique organisé par Minuit Tendre et Jouissif Montréal, qui se veut un espace festif, inclusif et coloré pour célébrer les fêtes. J'étais pour dire, vous célébrez les fesses aussi, peut-être. Bon, okay, excusez-moi.
Ben, tout à fait.
J'ai de l'humour comme ça de temps en temps.
Vous avez bien compris l'esprit du marché.
Ben, c'est parfait. On aime ça au show. Alors, Nadia Cardin.
Enchantée.
Tu représentes l'organisme
Jouissif Montréal.
Et Catherine Chevrier-Lord.
Oui, de la boutique en ligne Minuit Tendre.
Minuit Tendre. Alors, allons-y. Qu'est-ce qui vous a inspiré à créer un marché de Noël inclusif et spécifiquement pour les communautés 2LGBTQIA+?
En fait, ça a vraiment commencé notre relation d'affaires, on peut l'appeler comme ça, qui est devenue aussi des amis à travers le Festival Jouissif, qui est un événement là, qui a eu 2 éditions d'un marché avec une soirée justement pour l'art érotique inclusif. Et c'est là qu'on a rencontré les filles de Minuit Tendre, qu'on s'est mis à dire « Hey, on a bien trop du fun ensemble, il faut faire quelque chose, nos missions d'organisation se ressemblent, puis on a le goût de développer quelque chose ensemble. » Et là, on s'est dit « Ah, mais quelle occasion avec les fêtes pour recréer un événement, puis joindre nos forces là, pour créer Noël jouissif. »
Oui, puis justement, l'esprit de le faire comme dans le temps des fêtes, on sait que c'est une période parfois qui est assez difficile pour la communauté queer, donc les familles qui n'acceptent pas toujours ces personnes-là. Donc, on s'est dit, ben, on va rassembler tout le monde, on va se faire un gros party, on va avoir du fun, ça va être une grosse boule d'amour, exactement pour les fêtes qui peut être un moment un peu plus difficile parfois.
Là, j'ai commencé l'entrevue trop vite, j'ai oublié de vous demander quel pronom on utilise avec toi, Nadia?
Elle pour moi.
Pareil pour moi, elle.
Bon, c'est parfait. Ça, on ne s'est pas trompé.
Ben exactement, tout est beau.
Je vais revenir. Donc, quels critères vous avez utilisés pour choisir les personnes qui seront les exposantes là, pendant ce marché de Noël?
Mais c'est sûr qu'on a commencer à prioriser donc des artistes queer, des artistes issus des minorités, également des artistes dont l'art, dont le produit vient promouvoir la communauté queer, tout ça. Ensuite, c'est sûr que, bon, c'est un marché qui vise la communauté LGBTQ+, mais c'est un marché qui est ouvert également à tout le monde. Donc, oui. on veut que les gens puissent trouver des cadeaux aussi pour mon oncle, ma tante, donc des belles petites chandelles, des choses comme ça, mais on mise vraiment sur l'inclusivité des artistes et de leur art.
Un opérateur pour ma tante, peut-être?
Ah, ça nous arrive que des gens qui magasinent pour leur grand-mère un bon petit vibrateur. c'est parfait, on est là pour ça.
Non, mais ce que je trouve le fun, c'est qu'on peut en parler, on en rit, parce que finalement, ça devrait être drôle aussi.
Exactement, ben exactement. Ouais. Décomplexé surtout.
Ça devrait pas être tabou. Puis les deux dernières éditions qu'on a eues du Festival Jouissif, on voit de tout genre, là, de tout style, âge, style vestimentaire. C'est vraiment inclusif, c'est pour tout le monde parce qu'il n'y a rien de tabou là-dedans. Puis justement, l'événement, puis le souhait de travailler ensemble, Minutante, puis Jouissif Montréal, c'est ça, c'est de dire, bien, la sexualité, l'art érotique queer, tout ça, bien, ça fait partie de nos vies, puis on doit en le promouvoir, on doit mettre plus de l'avant, puis on doit créer des lieux comme dans les Jouissifs.
Et ça désamorce aussi beaucoup de choses, hein?
Tout à fait.
Oui. Ben, moi, j'aimerais savoir aussi que c'est quoi qui a été le plus grand défi là, pour organiser un tel événement?
Le défi, c'est que c'est, même si on souhaite que ce soit de moins en moins tabou, c'est pas évident de se faire une place dans l'espace public parce que les gens, quand ils voient de quoi on parle, font « Ouh, est-ce que c'est de nature grand public? » Donc, au niveau du défi de la visibilité, c'est toujours un enjeu auquel on fait face. Fait qu'on met en place des stratégies de plus de monde en parle dans les milieux, plus le monde relaie l'information, plus qu'on utilise tous nos réseaux, mais les gens finissent par... L'information finit par se rendre, mais il y a vraiment un défi par rapport à ça. Minutant, vous vivez aussi...
Oui, exactement. Donc, juste dans l'espace public, ça peut être un défi, mais également sur les réseaux sociaux, Meta, tout ça ont des règles quand même assez très, très strictes.
Ouais.
Donc, utiliser les bonnes formes de communication, les bonnes photos, les bonnes tournures de phrases, les bons mots pour détourner un peu toutes ces règles-là qui sont extrêmement strictes quand on parle de sexualité, même si c'est de façon positive et inclusive. Donc, ça également au niveau sur Internet, c'est difficile.
Ah oui, les réseaux sociaux nous imposent un certain puritanisme.
Certains?
Oui. Puis ce qui est vraiment dommage, c'est que l'autre côté de ça, c'est qu'il laisse passer beaucoup de choses très méchantes.
Tous les jours, on subit avoir notre compte bloqué à cause d'une photo d'un vibrateur.
Mon Dieu. quelles mesures avez-vous mises en place pour vous assurer que ce soit un événement qu'on appelle bienveillant ou sécuritaire, inclusif pour tout le monde?
Dans l'ambiance générale, tu sais, c'est vraiment dans le message là aussi, mm-hmm. Fait que dans nos communications, puis traditionnellement dans les événements aussi qu'on fait à Jouissif Montréal, puis c'est ce qui va se faire pour Noël Jouissif, tu sais, il y a tolérance zéro là, autant sur nos plateformes, sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, sur des commentaires haineux ou transphobes, homophobes, grossophobes, tu sais, il y a vraiment tolérance zéro. Et sur place aussi, l'équipe est là. S'il y a des gens qui vivent un moment où est-ce qu'ils se sentent pas confortables, on agit tout de suite. Il y a vraiment aucune tolérance, aucune place qui est laissée à ça parce qu'on veut vraiment que ça soit un lieu sécuritaire, inclusif et où les gens ont le goût d'être puis se sentir bien.
Quel a été jusqu'à maintenant le retour des communautés queer?
Ah, c'est sûr que les gens sont super contents d'avoir ce type d'événement qui est enfin là pour répondre à leurs besoins. On espère qu'ils vont être là. Ils ne vont pas seulement dire qu'ils ont le goût, mais qu'ils vont se présenter pour de vrai. Mais c'est sûr que de voir un événement comme ça, de quand même de grande envergure, là, donc c'est pas seulement un marché, mais c'est une soirée festive, il y a des activités, il y a des ateliers, donc gratuites également tous les jours.
Quelles sortes d'ateliers?
Des ateliers de toutes sortes, donc ça peut être des ateliers de projets DIY, donc peinture sur pénis en céramique, on a introduction au shibari,
oui.
On a introduction au massage de couple.
Le shibari, hein, c'est vraiment une forme d'art, qu'on pourrait dire.
Oui, j'ai vu
une session de shibari là, dans une exposition là, et j'ai été épatée. Je ne savais pas que c'était si compliqué que ça. Hein?
C'est un art qui peut aller très, très loin. On a des conférences également par des organismes communautaires sur la sexualité et tout ça. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts et on essaie de garder ça gratuit ou très peu dispendieux pour justement l'inclusivité passe aussi par toutes les strates financières, toutes les classes, donc pour que les gens
Vous avez reçu l'appui de Fierté Montréal, je pense que ça vous aide aussi financièrement, ça?
Oui.
En termes de visibilité, là, ils sont le partenaire de la soirée Noël Queer, qui est un des événements aussi dans ce grand marché-là.
Ouais.
On voulait créer une soirée de Noël inclusive, mais surtout, on sait que c'est pas un moment qui est facile dans le temps des fêtes. Puis certains peuvent avoir des souvenirs d'enfance pas toujours simples par rapport à Noël, puis notre coming out, toutes ces questions-là. Fait qu'on avait eu envie de créer une soirée festive. Rappelons-nous nos parties de sous-sol chez nos grands-parents. Réapproprions-nous ces codes de Noël-là, la sauce queer. Puis Fierté Montréal est notre partenaire là, pour cette soirée-là.
Moi, je me suis gardé du temps parce que ça me le tentait de vous poser une colle à toutes les deux.
Ah!
Alors, suggestion de cadeau pour Noël. Je vous ai pas averti que je m'en allais là.
Ben non, hein?
Ben vas-y, toi.
Suggestion de cadeau. Ben pour qui? À quel public?
Allons-y pour... Bon, je vais vous poser pour un homme queer de 60 ans. Je parle de moi, là. Sans parler.
On a des artistes vraiment très chouettes, dont Omondou, Garçon Bonbon, qui font des peintures, de l'aquarelle aussi sur différents médiums, qui vendent des toiles ou des prints qui sont super beaux, qui peuvent être très, très beaux dans un salon. Fait que j'aurais envie de dire ça.
Mais toi, je te pose la question avec une personne différente, une jeune femme queer, mettons, 20 ans.
Ben moi, là, quelque chose que je recommande, c'est un peu plate comme réponse, mais un peu à tout le monde, là. Puis c'est un petit peu, du lubrifiant. Il y a beaucoup de gens qui se disent, ben moi, j'en ai pas de besoin de lubrifiant, mon corps fonctionne assez bien, mais c'est jamais vrai. Du lubrifiant, ça sert à tout le monde, n'importe quand. Ça peut même servir pour l'irritation de la peau, mais c'est toujours encore mieux avec du lubrifiant, ça coule.
Silicone à base d'eau, ça dépend des goûts, ça?
J'aime mieux offrir à base d'eau, c'est plus polyvalent.
Parfait. Hey, merci beaucoup, Catherine Chevrier-Lord et Nadia Cardin. Oh, je répète donc, c'est le week-end du 21 au 23 novembre au Bain-Mathieu à Montréal. Noël jouissif, marché de Noël. Merci beaucoup.
Merci. Un gros merci de nous avoir reçus.
Merci.
Eh bien, c'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 91, en ce 11 novembre 2024. N'hésitez pas à communiquer avec nous sur heurciel en un seul mot @gmail.com. Je suis aussi sur Blue Sky. Je vous donnerai mon nouvel indicatif sur Blue Sky. Gédéric Trob, Marie Massé, merci pour la recherche. Merci à Maurice Bolduc pour la mise en onde et toute l'équipe de Canal M qui font en sorte que cette émission puisse avoir lieu. Merci beaucoup tout le monde. Je m'appelle Denis Martin Chabot. À la semaine prochaine.
Après la pause, notre